Vous écoutez
RMC.
Avec Polo, donc, physiquement avec nous ce soir, on est ravis.
Polo qui, juste parenthèse, mais on a parlé de Dortmund pendant super longtemps tout à l'heure, jamais n'est évoqué le fameux Sochaux Dortmund de 2003.
Tu sais que j'y étais en plus.
Si, le fameux caso, mais non, mais tu as raison, mais je
mon
l'ai...
Mon ami Ali, Sochalien, m'écrit ça.
Non, mais il n'y a pas que ça. Juste avant, il y a Bruges. Avant, il y a Bruges. Et fait, c'est la saison 2003. La saison 2003-2004, en fait, c'est la pire saison.
Ils étaient à la faillite. C'est l'époque de la faillite.
Et toi, c'est la pire saison du Borussia Dortmund dans l'historiographie du Borussia.
Non, mais c'était l'époque de la faillite ou pas? Je déconne.
Encore après, c'est là où on va en fait officiellement le 22 décembre 2003 où le journal Kicker va faire sa une avec un chiffre, c'est 100 millions, c'est le montant de la dette du Borussia Dortmund à l'époque où le Borussia Dortmund faisait à peu près 75 millions de chiffre d'affaires, qui fait rigoler d'ailleurs en 10 ans comment on est passé, comment les clubs sont montés. Sauf les clubs français, évidemment. Et en fait, c'est une saison catastrophique parce qu'ils sont sortis par Bruges en qualif Ligue des Champions. Et puis, il y a le fameux Sochaux au deuxième tour de mémoire contre en Europa League et c'est très très compliqué.
Se faire sortir par Pedretti et Isabel, quand même.
De ce jour-là, il n'y a qu'un jaune qui compte, c'est le jaune de Sochaux. Eh ouais, eh bon, Coco. Allez, Dortmund. C'est pour ça qu'on ne les respecte pas ici.
Oui, Simone Rovera est parmi nous. Salut, Simone.
Ciao, bonsoir.
Et Fred Hermel également. Salut, Fredo.
Hola, chicos.
Julien Laurent se rejoint un peu plus tard. Hein. Il attend la fin de Chelsea-Manchester.
Ça fait deux mois qu'il n'a pas été dans l'émission. C'est un coup faux. Un coup, il a une soirée dansante.
Ouais, c'est vrai que
un coup, il a un thé dansant, remise de prix de la Première Ligue.
La semaine dernière, il était très bon. C'est toi qui n'étais pas là.
Ouais, j'ai le droit d'être
vacances. En fait, c'est ça. Ouais. Bon, c'est au niveau éducatif, ça fait un peu Brexit quand même. Je trouve ça assez génial.
Un peu, quand même.
D'accord, ouais.
Moi, je voulais remercier Simone.
Pourquoi?
C'était un plaisir. J'ai fait la connaissance de Georgia. Merci, c'est sympa. Tu vois, Simone, tu vois, prends-en de la graine, Polo. Quand il y a un match comme ça, qu'il y a une copine qui vient, tu vois, parce que j'ai été en reportage, bien entendu, au Wanda Metropolitano pour l'avant-match de Atletico Liverpool. Et voilà, il y a une copine italienne qui vient, il est présent, tout ça, pour qu'on puisse se parler. Moi, je trouve ça très bien de la part de Simone.
J'ai donné à
créer des liens journalistiques
en Europe. Il envoie des copines en Espagne, Simone.
C'est clair, hein. Des fois, c'est sa femme, des fois, c'est des copines.
C'est sûr, si j'ai envoyé ma femme chez Fred, je peux envoyer toutes les copines.
C'est
la maison, c'est comme les mettre en banque. C'est sûr.
Les mettre en quoi?
Les mettre en banque.
Finalement, Julien Laurent, c'est là.
Quand même, il était temps.
Salut Gilbert.
J'ai oublié le son de sa voix.
Il a pris un melon, là, depuis qu'il a gagné une petite coupe l'an dernier, là.
Tu m'as manqué aussi, Daniel.
Ah, merci.
Ah bah.
Messieurs, dames, j'aimerais qu'on démarre par l'Italie parce que Simone a une semaine chargée. Simone nous annonce ce soir, attention, grand moment, la fin du sarisme.
Oui, si jamais. Ça si fait jamais quelques semaines déjà. Était commencé, si jamais il était commencé, si jamais Maurizio Sarri a essayé de faire. Devenir à la Juve une équipe sariste avec son idée des jeux, vous savez, à possession très rapide, beaucoup d'organisation, très tactique.
Ah non, stop, j'arrête tout là. But de Giroud, que se passe-t-il Johan, but d'Olivier Giroud. Nous sommes à 2, 3, 4 mois de l'euro, incroyable.
C'est la 77e minute, Olivier Giroud qui venait de faire son entrée en jeu et qui réduit le score pour Chelsea. 2-1 pour Manchester United encore, on est à la 77e minute.
Il est à l'euro. Ouais.
Il va être hors du bout du pied. C'est terrible d'être privé de l'euro à cause d'un bout de pied.
Il va être privé de l'euro à cause de la VAR, c'est horrible.
Ouais. Alors franchement, c'est absurde parce que on le voit quand il part du ballon. Non, parce que tu regardes le ballon au pied du mec, tu vas voir que non. C'est absurde, il est pas en jeu.
C'est grotesque. C'est
ridicule. Bon, peu importe. Vas-y, continuons.
Bon, et pardon, vas-y Simone, on revient sur le sarisme. Le but va être refusé, c'est évident.
Oui.
Non, très, très simplement, hier, Maurizio Sarri, après cette victoire 2-0 face au Brescia, avant-dernière de Serie A, qui était très compliquée pour la Juve, qui a réussi à dérouler un peu après que Brescia était réduite à 10, il avouait que, à la Juve, il a dit hier dans la conférence de presse, vous pourrez jamais voir une organisation collective comme celle des autres équipes que j'ai entraînées dans les dernières saisons. À la Juve, vous verrez jamais ça. Il y a des joueurs très forts à niveau individuel et qui expriment sa meilleure façon de jouer de façon solitaire. Voilà.
Donc il avoue n'avoir servi à rien. Que sa méthode ne verra pas le jour. Donc c'est un énorme aveu de faiblesse quand même.
et on est à moitié février, et il dit, je suis en train de, je cherche de m'adapter aux caractéristiques de l'effectif que j'ai. Donc, on est à la moitié de la saison, on est à 10 jours de retour de la Ligue des Champions pour la Juve, et ça arrive pas seulement à vous d'avoir échoué jusqu'à maintenant dans sa recherche de donner son jeu à la Juve, mais dit, aujourd'hui, je suis à la recherche de trouver la façon de m'adapter à mon effectif. Et on est en février. Ça pouvait être une idée du début de la saison. On se retrouve avec une Juve qui joue pire qu'avec Massimiliano Allegri et avec un échec total de son entraîneur. Et on a un début de la deuxième partie de saison. Elle doit s'adapter. Tout peut encore arriver. La Juve est première avec 2 points d'avance sur la Lazio, 8e de finale de Ligue des Champions face à un Lyon qui n'est pas très bien. Donc, sauf catastrophe, ça pourrait être un quart de finale. Demi-finale de Coupe d'Italie avec un bon résultat dans les matchs allés. Mais, pour l'instant, Sarri, tout ce qu'il a fait, il n'a rien donné.
Ça existe, hein, les équipes qui gagnent en étant détachées de leur entraîneur, en une sorte de pilotage automatique inconscient.
Bah, alors, en plus de ça, attends, une chose. Hier, rentre Giorgio Chiellini, très bon moment. Mais Maurizio Sarri dit à vous, bah, je ne vais pas les choix. Ça faisait, depuis hier, Chiellini m'a dit, si on est 2-0, je rentre sur le terrain. Et quelques minutes avant de commencer de rentrer sur le terrain, il s'est mis à côté de moi et il me dit, bon, alors, je rentre quand? Après, c'est Giorgio Chiellini, et c'est un magnifique moment.
L'histoire de Sarri à la Juve, c'est assez incroyable depuis le début. Cette histoire me passionne. Je lis tous les articles que tu m'envoies. Je sais, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi, supporters de cette équipe, à quel point ce gars-là est l'invité surprise de cette histoire.
Après, ils ont échoué avec Allegri qui avait 100% pour moi l'ADN Juve. On sait jamais.
Bon, on a parlé de la lutte à distance hier, hein, entre la Juve, la Lazio et l'Inter.
Très donc, bon Lazio.
On va pas le refaire ce soir.
Grosse lutte dans le haut du classement quand même en Italie. Ouais. C'est un championnat qui est très serré, c'est passionnant.
Surtout que ça change des années précédentes où la Juve éclatait tout le monde assez vite.
C'est vrai.
Donc là, ça va être passionnant jusqu'au bout. Si tu devais miser sur quelqu'un quand même, parce que hier soir tu t'es pas trop positionné, tu dirais qui?
Moi, je continue à penser à la Juve parce que si jusqu'à maintenant, avec tout ce qu'on a dit, ils sont là devant en première, t'imagines si les choses commencent à tourner un peu mieux. Pour l'instant, c'est catastrophique ou presque à niveau du jeu, sauf certains moments. Si les choses commencent à tourner bien, cette Juve n'a aucun défaut à niveau
défensif. Pourquoi Cristiano jouait pas hier?
Parce que il avait reposé la dernière fois en Coupe d'Italie face à l'Udinese il y a un mois. On était sûr que sur une série si longue avec la Coupe d'Italie aussi, il aurait choisi un match où se reposer. Tout le monde misait sur le prochain face à la Spal. Évidemment, il a choisi de se reposer parce que là aussi, c'est pas Sarri qui décide quand Cristiano n'y joue pas. C'est Cristiano.
Dis-nous un mot de l'Atalanta.
Dybala a mis un super coup franc.
Qui joue en Ligue des Champions après-demain, qui reçoit Valence.
Alors, j'étais samedi au stade et à Bergame et c'était vraiment une des plus beaux matchs que j'ai vu cette saison parce que l'Atalanta, je l'ai vu 2 fois et chaque fois c'est une des meilleurs matchs. C'est une équipe qui confirme tout ce que de bien on a dit sur ces dernières saisons et sur cette saison en plus, à niveau d'intensité, à niveau de courage, à niveau de qualité individuelle. Un joueur comme Gomez continue à vivre un âge magique. Au-delà des 30 ans, il est devenu un joueur indispensable. Il y a une faiblesse pour moi, cet Atalanta, qui c'est un peu la naïveté. Parfois, ils font des erreurs. Imaginez, face à la Roma, ils ont fait une seule erreur, une passe en retrait ratée, un seul tir cadré de la Roma et un but. En Italie, tu peux tranquillement gagner face à des adversaires, même des hauts niveaux, des moyennes hauts niveaux. Mais en Europe, un but comme ça encaissé, et parfois ça arrive à l'Atalanta de perdre les contrôles du jeu, du match pour 2-3 minutes, faire des erreurs, là ça peut coûter cher. Mais ça va être pour moi un vrai régal encore voir cet Atalanta qui me surprend. Et les seuls dommages de cet Atalanta, les seuls regrets, c'est de ne pas jouer à Bergame et à San Siro parce que ces stades petits, c'est un bijou.
Simone, il vaut quoi l'arrière-gauche de l'Atalanta, puisque t'en parles, Gossens, là?
Gossens, ouais. Bah alors, attention, avec Gasperini, tous les latéraux sont extraordinaires, parce que son système de jeu demande beaucoup aux latéraux, mais aussi donne beaucoup des ballons et des occasions aux latéraux de rentrer dans la surface. Donc, Gossens, ça fait partie un peu d'une liste que dans les dernières saisons, on a fait sortir des joueurs comme Spinazzola, comme Castagnavant, à droite, il y avait Conti, donc tous les joueurs avec Gasperini sont très bons sur les latéraux. euros. Au Genoa, à l'époque, c'était révélé Palacio, même s'il jouait un peu plus haut. Mais il faudrait le sortir du contexte Atalanta. Et quand un joueur sort du contexte Atalanta, c'est jamais si simple comme quand il est avec Gasperini.
D'accord.
Merci Simone.
Je sais parle pas des Rabiot.
Vas-y, un petit mot sur Rabiot.
Non, alors Rabiot continue à enchaîner des matchs. Tous les observateurs avec qui je parle en Italie, anciens joueurs, consultants, sont convaincus qu'il va encore mieux faire. Je trouve quand même que c'est logique, vu sa position, vu sa continuité aujourd'hui, dire, comme il a dit à nos micros, qu'il a envie ou quand même qu'il se sent bien pour être sélectionné. Et je ne crois pas que Didier Deschamps va changer d'avis. Mais vu les absences, les blessés qu'il y a dans cette...
S'il s'excuse peut-être, j'ai dit. Il pourrait.
C'est un discours personnel, bien sûr. À niveau de qu'on peut dire, niveau de performance, pour moi, sa saison, sa deuxième partie de saison, à partir de janvier, est très positive.
Il n'a pas joué, donc tu m'étonnes.
Il a joué moins.
Et il jouait pas.
Matuidi est extrêmement diminué.
Oui, oui.
Matuidi est très, très diminué par une blessure qu'il a du mal à soigner. Et Rabiot effectivement est devenu titulaire dans une équipe de la Juve et qui joue très mal.
Je signale que le Milan a battu Torino ce soir 1-0 dans un match de Serie A du lundi soir. Un but de Rebic, joueur que connaît bien.
Toujours pareil, Polo. Ça me fait rire.
Et qui est en super forme depuis quelques matchs.
Tu t'entends des déclarations. Bien sûr qu'il a envie de revenir en équipe de France. Mais pourquoi tu t'excuses pas de ce que t'as fait? Pourquoi tu fais le mort? Et en fait, c'est tes prestations qui vont te faire revenir. Mais écoute, si t'as disparu de l'équipe de France, c'est pour une bonne raison, non?
Vu ce que Véro a mis à Le Graët récemment.
Moi, mais disparu, il n'est jamais apparu.
Disparu, oui.
L'envers, un petit peu.
Oui, mais il était dedans. Il était dans les 30. Allez, on va dire dans les 30. Il était dans les trucs.
Merci Simonet.
Dans le brouillard.
Salut.
Ciao Simonet.
J'avais jamais vu.
Messieurs dames, attention, Fred Hermel est en deuil.
Pourquoi ?
Eh oui. Lens a perdu.
Aïe.
Johan, c'est fini entre Châteauroux.
On s'est fait voler.
Mais oui, c'est fini entre Châteauroux et Lens. Châteauroux qui s'impose 3-2 face à Lens, mais qui aurait pu revenir, même dû revenir, à mon sens, sur un centre. Et il y a eu un but d'un Lensois. Et l'arbitre de touche a considéré que le ballon était sorti en 6 mètres. Mais vu les images, ça me paraît pas très clair. En tout cas. Ça aurait dû faire 3-3, à mon sens. Tout à fait, Fred. Mais Châteauroux s'impose quand même 3-2 et prend 6 points d'avance sur Niort barragiste. Lens reste à 4 points du leader Lorient.
Merci Johan. Dans quelques instants, on reparle de Chelsea-Manchester avec Julien. Et puis la Ligue des Champions au programme, bien sûr, avec les matchs de la semaine. Les Drôles de Dames reviennent dans quelques secondes sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jean Bretagne avec nous encore pendant 10 minutes, Daniel Riolo, Paulo Breitner, les Drôles de l'âme bien sûr, et Frédéric Verdier avec nous ce soir. Juste, tout à l'heure on vous a dit vite fait comme ça que demain soir on serait à Dortmund. Demain c'est journée exceptionnelle sur RMC de 18h à minuit.
C'est mission Dortmund.
Team Duga.
Et la bonne.
Team Duga en direct de Dortmund. La soirée en direct de Dortmund, l'after en direct de Dortmund, avec Jérôme, avec Gilbert, Daniel. Demain soir, on sera tous sur place.
Saucisse, t'es obligé.
Au Westfalen.
Comment ça s'appelle la saucisse?
Demain, dès qu'on arrive, saucisse.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'adore.
Et bière de soif.
On se fait une petite bière avec la saucisse ou pas?
Ah oui,
tu nous conseilles ça?
Évidemment.
Okay. Non, c'est pas la saucisse.
T'as un bière Yarton à nous.
Bratwurst.
Ouais, mais ça peut pas valoir la saucisse de.
Le Strasbourg.
Du Lyonnais, ça peut pas valoir la saucisse d'Ouli.
Pas pareil. Mais
la saucisse d'Ouli, elle est magnifique.
Mais est-ce qu'elle est meilleure que celle de Strasbourg?
Non,
c'est pas la même.
C'est pas la même.
Ah non, mais parce que l'autre, il arrête pas de nous dire.
Les saucisses à Strasbourg, Polo?
Ouais, c'est de la sauce.
C'est light, quoi. C'est du libdem.
Je réponds même pas.
La saucinette. C'est de la saucinette.
Ouais, la saucisse très fine. Une bonne knack ne vaudra jamais les saucisses de bourrin, les Allemands. Bon.
Oh là là, t'entends ce qu'il dit? Non, mais t'entends ce qu'il dit?
Mais c'est ça. Mais c'est toujours pareil. Les régions
à
la frange de l'Empire, c'est toujours pareil.
C'est magnifique.
Tu nous as pris pour les sudettes.
C'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait.
Bon, j'aimerais, avant qu'on parle de l'Espagne, vous faire écouter un document exclusif After Foot. Ah. Vous savez que Fred, évidemment, aujourd'hui est en conférence d'avant-match.
Ah.
Donc il a vu Jürgen Klopp.
Ah oui.
Et là, Fred, qui voit Jürgen Klopp, tu te dis, il va aller parler d'un truc intéressant, tu vois, je sais pas moi.
Non, c'est lui qui a commencé.
Comment ça, c'est lui qui a commencé?
Bah, c'est Klopp qui a commencé. Alors, il faut déjà dire que Klopp était un peu crevé. Ils sont arrivés vachement en retard. Il était crevé. On ne peut pas dire qu'il avait très, très envie de faire des interviews. Ce qu'on appelle les one-to-one, hein, pour nous qui avons les droits de la Ligue des Champions.
Ouais.
Et donc, il arrive. Et dit, après les Italiens, il dit c'est fini. Je dis, non. Il y a encore la France, monsieur Klopp. Quand même, je n'allais pas laisser passer mon bout de saucisse, quand même. Hein,
ouais, tout à fait.
Et il me dit, tu vas être content. Je viens de dire en conférence de presse que pour moi, le favori, c'était le PSG. Enfin, il a vu ça d'une certaine manière pour dire, comme ça, la pression, elle est sur le PSG, quoi, tu vois. Il dit, tu vas être content. Je dis, oui, je suis content. Enfin, bref, moi, c'est pas mon équipe. Et bien, c'est quoi ton équipe? Et puis là, je vous laisse.
Et là, attention, la réponse.
So, Lens. Racing Club of Lens. Ah.
You and?
We were. You are the other support. 26,000 each game in second division.
Oh, great.
Hey.
Sorry.
No, please. It's very important. Okay. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, il me dit c'est quoi ton équipe toi? Je dis Lance, il dit et vous êtes combien de supporters toi et un autre?
C'est bon la phrase toi et un autre.
Mais connaissance du Racing Club de Lens, c'est limite tout le temps.
Ah comment je l'ai cassé le club là? Je dis attention monsieur, c'est 26 000 en deuxième division. Et là il dit ok respect, voilà. Enfin bon. En tout cas il était crevé, franchement le problème c'est ça les Anglais, ceux qui ils gagnent une compétition, ils savent pas assumer l'année d'après. Quand on gagne une Ligue des Champions, après on est très sollicité. Mais lui, on le sent que ça l'embête un petit peu quand même.
Attends, Julien arrive dans quelques instants. Ça va mieux entre Messi et Griezmann?
Oui, c'est grandiose quand même. Deuxième passe décisive en 7 mois. Franchement, je pense que là on peut déboucher
quelque
le champagne.
Quelque chose à dire? Vous allez vous engueuler ce soir sur
Non, mais il y a une histoire terrible là-dessus.
J'attends
un épisode
de plus de votre joue.
Pas du tout, moi, je constate sur le terrain.
Non, et la passe de Messi, elle est extraordinaire. Voilà. Enfin, c'est d'une beauté. C'est vraiment.
Pourtant, il aurait pu la donner à Fatih qui a le même agent que lui, mais il l'a préféré à Griezmann qui n'a pas le même agent. C'est bizarre.
Il n'a pas le même agent. C'est que le frère de Messi est l'agent de Fatih. Mais il lui a donné une belle passe. Mais bon, sinon, le problème du Barça, c'est malheureusement. On est obligé de parler de l'actualité très très chaude de cet après-midi.
Ah vas-y,
c'est
raconte un peu ça.
Ah oui, c'est
un truc de malade. Enfin,
Alors vas-y, il faut que t'expliques parce que c'est un peu compliqué.
Ouais, on va bien l'expliquer. Aujourd'hui, la Cadena Ser, qui est la première radio d'Espagne, qui en général ne sort pas de grosses infos sans avoir du biscuit derrière, annonce que Bartomeu, le président du Barça, et les dirigeants ont un contrat avec une agence, vous savez ces agences de lobbying sur les réseaux sociaux,
ouais,
pour manipuler un peu l'opinion, avec qui une agence qui aurait créé de faux comptes pour dénigrer les joueurs du Barça, les légendes du club et les possibles candidats à la prochaine présidence du Barça.
Oui, en fait, pour favoriser Bartomeu.
Voilà.
Oui, mais favoriser Bartomeu en dénigrant les joueurs. Absolument. Non mais vous rendez compte du truc. Enfin c'est un truc.
En sabrant les joueurs mauvais esprit, disons entre guillemets.
Oui, enfin et donc en premier attaquant Piqué et Messi. Le Barça a fait un communiqué tout de suite en se défendant avec plein d'explications, disant que c'est un mensonge, qu'ils font porter plainte. Recommuniqué de la Cadena Ser en disant on a beaucoup d'infos, on va en balancer beaucoup dans les heures qui viennent. Donc c'est très grave, mais finalement moi ça me semble crédible pour deux raisons. La première, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé il y a 15 jours entre un dirigeant qui s'appelle Eric Abidal et Messi. Et puis surtout, je pense que dans nos métiers, nous qui faisons du terrain, on a toujours été confrontés à des dirigeants qui, avec du off, ont essayé de nous manipuler en descendant des joueurs. Quand le joueur, par exemple, demandait trop d'argent pour un nouveau contrat, quand le joueur disait qu'il avait une proposition d'ailleurs, quand on voulait virer un joueur. Donc, dans l'esprit... C'est pas ça qui est choquant, parce que dans l'esprit, on a tous été confrontés, avec du off, avec des dirigeants de clubs qui essayaient de nous manipuler pour dire du mal de joueurs. Ça, c'est classique. Mais que ça passe à une dimension commerciale, c'est-à-dire prendre, vous savez, on va pas, vous savez comme c'est les soupçons qu'il peut y avoir dans des élections, etc., d'intervention dans les réseaux sociaux de manipulation. Si le Barça fait ça, c'est un truc de fou. Et là, Bartomeu, il est très 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 mal parce que qu'il était pas bien, mais là c'est incroyable. Mais
c'est un truc qui en politique se fait tranquillement. Hein.
Oui. Oui, mais là, on parle d'un grand club de foot. Donc, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça dans un club de foot. Là, c'est la première fois que ça arrive. Donc, ça fait un bordel pas possible. Déjà que le Barça va pas bien sportivement parce que, je sais pas si vous avez vu le match contre Rétafé, mais enfin, le public a commencé à siffler parce que Rétafé a été très, très près d'égaliser et que le Barça ne maîtrise plus ses matchs, notamment défensivement. Donc, ça crée quand même de nombreuses tensions. Et on se dit que cette... ce nouvel épisode dans la guerre entre les joueurs et les dirigeants, qui est pas récente, hein, on sait que ça dure depuis au moins 2 ans, risque d'avoir des influence pas forcément positive, okay, sur le niveau sportif. D'autant plus que le Barça, a obtenu le droit par la Fédé aujourd'hui et la Ligue d'avoir un joker médical. On parle d'un Suédois de Leganés, il s'appelle Braithwaite.
On le connaît bien, Braithwaite, nous.
Martin Braithwaite, c'est un Danois.
Danois. Mais le problème, si le Barça est obligé d'aller chercher un joueur à
Leganés... Braithwaite au Barça, quand tu l'as vu à Toulouse, c'est sûr que c'est mythique. Hein, c'est...
Tu te dis,
le dentifrice qui arrive au Barça.
C'est du niveau de Faubert au Real.
C'est quand, l'année dernière, Boateng, c'était quand?
L'année dernière.
Sauf que Boateng, il a été quelqu'un dans le football.
Barça, ils s'en souviennent.
Boateng, il a
joué au Barça, tu sais pas où sortir. D'accord. T'as Kevin Prince Boateng qui arrive, il t'oriente sur les bonnes boîtes de nuit, les bons plans et tout, c'est quand même important. Je crois que Braithwaite, il est calé comme ça en boîte de nuit.
Je pense que
le mec, il habite à Leganés, donc il peut pas être calé, je te le dis. Franchement, Leganés, ils cultivent des concombres, c'est tout ce qu'ils font.
Fred, bouge pas. On reparle d'Espagne dans quelques instants, mais Julien, ça vient de se terminer entre Chelsea et Manchester United. Pour une fois, Solskjaer a fait un truc bien.
Alors pour une fois, c'est la troisième victoire de Chelsea, de Manchester United sur Chelsea cette saison. Il y avait eu le 4-0 pour l'ouverture du championnat au mois d'août à Old Trafford. Il y avait une victoire aussi en Coupe de la Ligue pour Manchester United, à Chelsea, à Stamford Bridge déjà, avec un doublé de Rashford. Et puis là, la victoire d'aujourd'hui, ça n'a pas été un très très bon match, mais Martial a marqué un très beau but de la tête en fin de première période sur le seul tir cadré de toute la première période pour les deux équipes confondues. Ils ont plutôt bien maîtrisé en seconde période, même si l'entrée de Giroud a fait du bien à Chelsea. D'abord, il donne un très bon ballon à Kovacic, qui doit marquer, qui est contré au dernier moment par Eric Bailly. Après, il y a son but refusé effectivement pour un hors-jeu par l'avare pour Giroud. Mais c'est vrai que pour Chelsea, ça commence à faire une mauvaise habitude. Ils ont pris une mauvaise habitude de perdre à domicile, en tout cas d'être très mauvais, très peu performant à domicile en championnat en tout cas. Et c'est encore une défaite. Ça veut dire maintenant que Tottenham est revenu à 1 point derrière Chelsea, que Manchester United est revenu à 3 points derrière Chelsea. Et même Arsenal, avec sa victoire contre Newcastle hier 4-0, se rapproche aussi. Donc on a une vraie course maintenant pour cette 4e place et voire même 5e place, puisque Manchester City ne jouera pas la Ligue des Champions les deux saisons qui arrivent.
Dans quelques instants, tu nous donneras les nouvelles de Liverpool, donc, qui joue face à l'Atlético demain, donc en parallèle du match Borussia-PSG. On dira également un mot de Tottenham qui joue face à Leipzig. Polo pourra donner son point de vue. Les drôles de l'âme continuent dans quelques secondes sur RMC. Jérôme, merci beaucoup.
Allez, merci.
À demain. À Dortmund.
Allez, à demain. On va à l'aéroport.
Adieu.
À demain, Polo.
Au revoir, Jérôme.
Allez.
Bravo. Dans quelques instants, Julien Cazard qui.
Faire émission avec un vrai tennisman, enfin.
À demain,
merci, Jérôme.
Allez.
Julien Cazard dans quelques instants qui prend ta place. À tout de suite dans la.
RMC. Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Daniel Riolo, Frédéric Verdier, les drôles de l'âme et Julien Cazard qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, est-ce que c'est l'after tennis? Ça ne parle que tennis pendant les pubs.
Oui, d'ailleurs, je reçois des messages sur Direction, on me dit vous nous saoulez avec votre tennis, parlez foot.
Ça dépend, honnêtement.
Je pense que ce message est unique.
Est-ce que tu préfères?
La plupart des gens aiment tous les sports, ceux qui nous écoutent. Ils aiment bien nos digressions sur d'autres sports. Il n'y a pas des gens qui sont uniquement teubés, genre que un sport, qu'un sport.
Si, il y a des gens uniquement teubés, il y en a.
Oui, mais pas qui écoutent l'after.
Ah bon?
Non.
Oh.
Non.
Oh.
Alors, j'attends un message, mec, qui dit moi, il n'y a que le foot qui m'intéresse dans la vie. Il n'y a pas ça chez nous.
Je vous ai dit que je
pas ça chez nous, monsieur.
Je veux bien, mais j'ai pas Twitter.
Moi, je me suis régalé avec le biathlon ce week-end.
Avec quoi?
Voilà, on aime tous les sports.
Le biathlon.
Oui, mais toi, tu fais des podcasts sur la course, t'es un malade. C'est génial, le biathlon.
Même toi, t'aimes bien les autres sports, t'aimes bien regarder ce qui se passe, les comparatifs, t'aimes bien ça aussi.
Ouais, pour voir que j'aime le foot.
Bah, d'accord.
Mais non, bien sûr, moi je préfère Shapovalov Team à un match de Ligue 1. Je suis pas complètement débile. Ah. J'ai quand même un cerveau et des yeux.
Bon, les gars. Attendez, je vais vous dire un truc, mais j'ai oublié quoi. Jérôme, c'était quoi?
Moi, je sais plus.
Ah, carrément, c'est Coluche Info, quoi. On parle directement à la régie.
Bien sûr. Jérôme Thomas.
C'est en direct. T'as pas un téléphone à côté où tu appelles, tu sais, comme dans les.
Il faudrait qu'on l'ait.
Comme Bruno Mazur ?
Ouais, dans les JT, quand il y avait un problème.
Il faudrait qu'on l'ait pour que tu parles à Jérôme de cette façon, ce serait beaucoup plus drôle.
On me dit que.
Oui. Oui. Le mec disait oui.
Non, celui qui était beaucoup de téléphone,
c'était Jean-Claude Bourret.
Gérard Saint-Paul.
Ouais.
On appelait à New York.
Et voilà, Jérôme me dit. Il vient de me dire teasing quiz. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a un ballon de Ligue 1 à vous faire gagner. Donc vous appelez le 16.
De Ligue 1 ?
De Ligue 1, exactement. Puis, le vrai. Hein.
Est-ce qu'une balle de tennis, babolat, serait pas mieux ?
Non, le ballon de Ligue 1, c'est
la ZG.
Donc vous vous inscrivez au 32-16 pour participer au quiz, s'il vous plaît.
Très bon.
Revenons au drôle de dame. Liverpool demain face à l'Atlético. Je sais que Fred n'est pas d'une confiance absolue. Qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre, Julien ?
On est plutôt tranquille, hein, comme on en parlait avec Fred samedi soir dans l'after déjà. C'est plus l'Atlético que Liverpool aurait pu rencontrer par exemple il y a 3-4 ans qui aurait pu lui faire un petit peu peur. Là, ils sont plutôt tranquilles. Klopp a même fait un petit peu tourner samedi en championnat en sortant par exemple Wijnaldum à l'heure de jeu, en faisant rentrer Sadio Mané aussi à l'heure de jeu. Donc même Mané a retrouvé le terrain après sa petite blessure. Il a marqué d'ailleurs un très joli but qui va lui faire beaucoup de bien. Il pourrait être titulaire demain soir ou il pourrait même débuter aussi sur le banc pour pas non plus trop précipiter son retour. Et ça montre aussi à quel point, même si Liverpool respecte énormément Simeone et l'Atlético, que dans l'esprit de Klopp et de ses joueurs, on y va quand même en étant les gros favoris, en sachant qu'on est les gros favoris. On revient à Madrid, dans le stade où on a été sacré champion d'Europe au mois de mai dernier. Et c'est vrai que dans l'état de forme actuel dans lequel ils sont, avec maintenant 25 victoires et un seul match nul en 26 matchs de Première Ligue cette saison, ce serait difficile de dire le contraire pour Liverpool. Ils sont favoris de cette rencontre et ils sont aussi dans la forme de leur vie, même si c'est pas toujours le football le plus spectaculaire. Peut-être moins beau d'ailleurs footballistiquement parlant que ce qu'on a pu voir du Liverpool de Klopp de la saison dernière ou voire même de la saison d'avant, mais c'est tellement efficace cette année dans les deux surfaces que tu as du mal à croire quand même comment l'Atlético pourrait venir les déranger, leur poser trop de problèmes, et je pense que sur les deux matchs ils ne font pas trop de soucis pour la qualification.
Ouais, alors, que réponds-tu à cette provocation ?
Non, mais il a raison. Après, on a discuté un peu avec Klopp tout à l'heure et on a l'occasion de le voir, de l'entendre et de voir à la télé. Déjà, ça leur fait un effet extraordinaire. Ils disent, on a atterri, on a pris le bus. Voilà, ils ont revécu. C'était le 1er juin, c'était il n'y a pas si longtemps, leur victoire en Ligue des Champions au Rwanda. Donc, automatiquement, il y a une petite Madeleine de Proust qui est quand même très agréable pour les joueurs de Liverpool qui se retrouvent dans un endroit qui leur a fait un bien énorme. À côté de ça, ils sont confiants, mais c'est quand même pas n'importe qui, Klopp. Il connaît, et d'ailleurs, il a passé toute la conférence de presse à dire du bien de l'Atlético et dire du bien de son entraîneur Simeone. On peut reprocher beaucoup de choses à l'Atlético. Et je suis le premier à le faire. Enfin, c'est une équipe très compétitive. On ne met pas 3-0 à l'Atlético. Ou c'est très rare.
Faut jamais dire cette phrase-là, Fred. Jamais dire cette phrase.
Juge l'an dernier.
C'est vrai, je prends le risque.
Jérôme, la phrase en stock, s'il te plaît. En stock, elle peut resservir très vite.
Ouais, bah, demain soir, peut-être. Mais en tout cas, et Klopp sait très bien que ça va être malgré tout difficile. Côté Atlético, il y a quand même beaucoup de blessés. La recrue de l'année, Joao Félix, est blessé. Hector Herrera, recrue mexicain milieu de terrain, blessé. Un joueur qui s'est très bien intégré, un Anglais, mon cher Julien Trippier, Kieran Trippier, et il est blessé. Il y a le retour de Diego Costa, qui est blessé. Il s'est fait opérer d'une hernie cervicale au mois de novembre. C'est une hernie discale très haute. En fait, c'est un petit peu moins grave qu'une hernie discale. Enfin, c'est quand même très gênant quand t'es footballeur. Il s'entraîne depuis 15 jours. Il va pas être titulaire demain. Et vu le rythme, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Liverpool a un rythme de jeu incroyable, je vois même pas comment il peut jouer 10 minutes, Diego Costa. Ça fait partie du bluff de Simeone avant le match. À côté de ça, on aura 60 000 personnes demain au stade. Il y aura une ambiance de folie. Voilà, c'est un match à jouer. Mais bien évidemment que quand on regarde sur le papier les deux équipes aujourd'hui, c'est Liverpool qui va se qualifier. Voilà, on le sait. Par contre, je pense pas que ça sera réglé demain soir. Voilà. Moi, c'est le seul espoir que j'ai pour les Colchoneros, c'est que je pense qu'il n'y aura pas une grosse défaite demain soir qui.
C'est très rare de voir un Fred Hermel comme ça soumis devant l'envahisseur anglais.
Non, mais c'est de la, du réalisme. Non,
c'est-à-dire il sait lui-même,
Mais non, mais le problème, tu sais, c'est que c'est même pas relevant. Je pense que malheureusement, l'Atlético aurait des difficultés devant beaucoup d'équipes européennes. Tu me dis, il y a le PSG en face, j'aurais quasiment le même discours.
L'Atlético n'a pas perdu du tout.
Ah oui, attends, c'est dans 3 semaines qu'on reparlera du match retour, mon ami. Hein. Pour l'instant, on est que dans le match aller. Donc voilà, puis avec les blessures, etc. Et on a vraiment le sentiment, j'en termine là-dessus, que c'est la fin de l'époque Klopp. Et il y a même eu un truc incroyable. C'est que, vous savez, les pétitions sur Internet, là, change.org, eh ben, il y a même un groupe de supporters de l'Atlético qui a créé.
La fin de l'époque Simeone, tu veux dire, parce que t'as dit Klopp, t'as fait une.
Klopp, pardon, ouais. Simeone, excuse-moi, Simeone, je suis bientôt obsédé par Klopp, maintenant, mon nouvel ami que j'ai, là. Il y a même des supporters qui ont créé sur Internet une pétition pour demander à Simeone de partir ou aux dirigeants de le virer. Ça, c'était un truc qui était encore inimaginable et encore.
Ça, c'est dur, un supporter de l'Atlético qui vient à ça.
On est d'accord.
C'est-à-dire que tu dises que c'est la fin de l'histoire, mais que tu actes ton envie comme ça de voir ce mec partir après tout ce qu'il a fait, c'est dur.
Après, au bout de quelques heures, il y avait une centaine de signatures. Mais c'est simplement le fait que quelqu'un ait pensé à créer ça, qu'il y ait des gens qui signent, c'est déjà ridicule. Bah, c'est-à-dire que l'Atlético, quand même, a fait deux finales de Ligue des Champions, a gagné une Ligue Europa, a gagné une Liga, a gagné une Coupe d'Espagne, a gagné une Supercoupe d'Europe. On peut quand même dire que le bilan de Simeone qui arrive en décembre 2011, alors que l'équipe est relégable, il est quand même extraordinaire. Et surtout, je reprendrai une phrase qu'un jour m'a dite le propriétaire d'Atlético, le fils de Jesús Ril, Miguel Ril, en disant Simeone et les deux finales nous ont situés sur la carte du football européen. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé d'Atlético que depuis cette finale de Ligue des Champions.
Ah, bien sûr.
Oui, donc le dénigrer aujourd'hui, c'est absurde. C'est le manque de mémoire de certains supporters ou même de certains clubs.
Mais c'est partout. Malheureusement. Mais c'est partout. Le pire, c'est que c'est partout.
Regarde Marseille, Deschamps, il s'est fait conspuer alors que le mec, il a tout rapporté à Marseille en joueur et en entraîneur. Hein.
Et l'inverse est très très rare de voir un club qui s'est honoré un retour de joueurs. En Angleterre, on le voit quand même un peu souvent, c'est bien, mais dans les autres pays, c'est quand même beaucoup plus rare.
Ben justement, passons à un autre pays. Tottenham Leipzig, mon petit Polo, t'en dis quoi de Leipzig ?
Écoute, je suis excité comme tout pour cette double confrontation, déjà parce que Leipzig n'était pas bien du tout depuis le début des Rückrunde 2. Et puis, il y a eu ce match.
Depuis le début des
matchs retour, pardon, in Rückrunde 2, Rückrunde 2.
Très bien, merci beaucoup. Oui, on avait compris pourquoi tu, Gilbert, insistes.
Oui, et en fait, il y a eu, rappelez-vous, la semaine dernière, ce match nul au Bayern, qui relance d'ailleurs tout le championnat. C'est-à-dire qu'on pensait que le Bayern pouvait s'échapper. Donc, ça fut un match très, très intéressant, tactiquement parlant, puisque Leipzig, pour l'une des premières fois, se met en position de contre avec le petit Espagnol Olmo, qui est excellent et qui joue en véritable
numéro 10. Qui joue en Croatie.
Ah, il est
fabuleux, lui.
Il est fabuleux.
Mais ouais. Mais il est fabuleux. Enfin, il a été recruté là maintenant.
Il est en fait, si tu veux, bon, au début, il rentrait de temps en temps, mais là, il l'a vraiment positionné en 3-4-1-2, en le mot derrière Werner et Nkunku ou Schick, qui n'arrête pas de marquer. Et en fait, ils ont refait la même stratégie. Donc, ça a très bien marché contre le Bayern parce qu'ils auraient même pu l'emporter en seconde mi-temps. Et il a remis en position de titulaire en 10 contre Werder. Alors, ok, le Werder, c'est opération porte ouverte. D'ailleurs, il est fort possible que le Werder descende cette saison. On parle du Werder quand même, c'est pas neutre comme club.
Leipzig, dès qu'il y a un bon petit jeune qui traîne,
c'est vraiment.
Ouais, et surtout, Polo, il y avait beaucoup de gens derrière Daniel Olmo. Parce qu'il avait été très, très bon avec les espoirs espagnols. Et tout le monde l'avait vu.
Il est champion d'Europe.
Oui, c'est pour ça. Donc, et franchement, il y avait quand même beaucoup de clubs. Et je trouve qu'il a fait il est bien conseillé, ce garçon. Il fait des choix de carrière intelligents où il sait qu'il va le jouer.
Et c'est pour ça que cette rencontre contre Tottenham m'excite beaucoup. Parce que je reste persuadé que Tottenham, sur l'ensemble des rencontres, est le favori. Parce qu'il y a l'expérience, parce que ceci. Parce que, comme le dit très bien Daniel, Leipzig, y compris dans la presse allemande, on a voulu en faire un monstre, etc. Mais il y a aussi la réalité des chiffres quand même. Ils sont aussi dans une phase d'expérience. Il y a 2 ans, ils n'ont pas passé les 8e. Cette année, ils sont en 8e. Et là, c'est Tottenham. Et je suis vraiment excité à l'idée d'aller...
Moi, je miserais bien sur eux, moi.
Je pense que ça va être plus compliqué déjà parce que j'ai vu
des
matchs...
Après, Mourinho a le jeu vraiment emmerder une équipe comme Leipzig qui risque d'être un peu jeune peut-être, mais
match retour à Leipzig quand même.
Ouais, hein, match retour à Leipzig.
Bah, quand même, c'est pas mal.
Je miserais bien sur Leipzig.
Maintenant, j'ai vu bien ces matchs de Tottenham. Enfin, je parle sous le contrôle de Julien évidemment.
Bah, ils en ont fait un de folie hier après-midi contre Aston Villa.
Bah, c'est quoi, il y a parfois il y a des matchs où il y a pas énormément d'occasions. Enfin, je parle sous ton contrôle, Julien.
Non, alors ils ont bien sûr depuis la blessure d'Harry Kane, ils ont des gros problèmes. Ils ont dû s'adapter et jouer un petit peu différemment, et surtout qu'ils n'ont pas pu recruter un attaquant là, l'attaquant que Mourinho aurait voulu en janvier. Donc c'est soit Lucas Moura, l'ancien parisien, soit Son qui joue en pointe, ou parfois même Bergwijn, le qui est arrivé du PSV Eindhoven cet hiver. Donc c'est vrai que c'est différent. Si Harry Kane était là, ce serait je pense une toute autre dynamique, et on aurait une analyse complètement différente avant la rencontre. Sans Harry Kane, c'est très difficile et c'est très différent, et surtout il continue d'encaisser beaucoup de buts, comme Daniel vient de le dire. On a vu un très spectaculaire match, une victoire 3-2 contre Aston Villa hier, où ils s'en sont sortis à la dernière minute, mais ils ont encore pris deux buts, ils auraient même pu en prendre plus. Et depuis l'arrivée de Mourinho, quand Mourinho est arrivé, on s'est dit bon voilà, il va solidifier cette défense qui prenait déjà beaucoup de buts sous Pochettino, et puis il va les faire jouer en contre, ils vont être très réalistes, ça va être du vrai Mourinho. Et pas du tout en fait. Il continue à encaisser beaucoup de buts. Mourinho a d'énormes problèmes pour trouver la bonne formule en défense et pour justement rendre cette équipe plus solide. Offensivement, parfois ils ont des grosses absences où ils ont de gros problèmes pour créer des occasions, pour se créer des occasions et même créer des différences, des jeux à trois ou des jeux du jeu sur les côtés. Et même si là ils ont marqué 3 buts contre Aston Villa, c'est vrai que parfois c'est plus difficile aussi pour eux de marquer. Si Son n'est pas dans un bon jour, ou Lucas avec ses accélérations et ses dribbles n'est pas dans un bon jour, ça devient très compliqué pour eux, surtout quand Dele Alli est lui aussi dans une période un petit peu difficile. Donc moi je ferai de la psyche mon favori aussi, un petit peu comme Daniel, même si l'expérience de Mourinho et le sincèrement, je pense qu'avec le match retour en Allemagne, ça peut être très compliqué pour Tottenham.
Moi tu vois, c'est typiquement le genre de match que j'adore, parce qu'il va être évidemment moins médiatisé que les autres rencontres.
Bon, attends, il y a Mourinho.
Mais
en
fait, non mais moi il me donne envie.
Il y a Mourinho, dès qu'il y a Mourinho.
D'accord, mais c'est pas ça. Enfin, à la rigueur, c'est les Anglais qui vont le regarder, etc. Mm. Mais quand Mourinho est venu voir le match à la
Lance Arena, mercredi soir, on va pas le rater celui-là.
Mais je trouve que c'est parce que c'est pas deux équipes pour moi qui ont vocation à remporter la Ligue des Champions, mais tu as le droit d'espérer un beau parcours. Et je pense que ça. Et en plus, j'ai oublié de dire, c'est que Sabitzer, depuis que Olmo est arrivé, est repositionné en numéro 6, ce qui donne de nouvelles possibilités techniques, moins défensives évidemment, à Leipzig. Et ça joue vraiment bien au ballon. Ils ont vraiment réussi à changer leur courbe, qui était quand même assez négative, avec notamment l'élimination en Coupe d'Allemagne et des matchs très moyens. Et là, je sais pas. J'ai pas envie de dire que c'est du 50-50, mais j'ai envie de voir cette rencontre.
Leipzig, ça reste quand même le locomotive avant tout, non?
Mais je connais bien le loco.
Tu le lances, toi.
Non, le lance pas là-dessus.
Non, parce que là, on est foutu.
On aime bien le RB.
D'ailleurs, Julien.
Lui-même s'est fait au RB.
T'as entendu Polo tout à l'heure? Il a expliqué qu'il n'y avait pas faute de Schumacher. Il a même fait le geste comme ça. Il n'y a rien du tout. Je pense que, alors, moi, pour moi, il y a tête plongeante de Batiston sur la hanche de Schumacher. Et qu'il s'en sort bien, qu'il n'y ait pas carton jaune. Un carton jaune à l'époque, il aurait dit. Parce qu'il lui manquait 8 dents. Mais voilà, ça t'apprendra à venir t'aventurer dans un endroit qui ne t'est pas promis, petit garçon. Il y est parvenu, tu remarqueras. C'est pas faux. Julien.
T'es content, Polo?
Parle-nous de la bombe du fair play financier pour City. Alors, le plus drôle dans cette affaire, c'était Mourinho d'ailleurs. Qui a dit, oui, d'ailleurs, ce serait bien de voir, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour le titre, le titre quand je suis arrivé deuxième, du coup, on fait quoi? A dit Mourinho.
Bon. Ah ouais, mais il a raison.
Il a raison, bien sûr. Et d'ailleurs, à Liverpool, on est en train de se dire, est-ce que le titre de 2014, puisque ça compte, ça c'est la période 2012 à 2016. Oui. Mm-hmm. La période où ils ont vraiment trafiqué les comptes. Et
quand une équipe a déconné en étant vraiment premier, l'autre devient champion derrière.
Mais non.
Sauf en France.
Non, mais
ah ouais,
tu peux dire
un truc en 93.
Tu peux dire, on sait jamais.
Excuse-moi, ouais. Daniel, dans ta parenthèse, oublie qu'il devait être attribué, c'est Paris qui a voulu le titre.
Oui.
Donc, voilà.
La Ligue n'a pas forcé le PSG à
accepter. Oui, enfin bon.
Ce que le PSG a refusé, c'est pas le titre, c'est d'aller jouer en Ligue des Champions l'année d'après.
Les deux.
Pas pareil. Le titre, pas vraiment la Ligue des Champions surtout.
Bon, revenons à City, au fair play financier.
C'est encore plus comique que ça.
Non, donc juste pour finir l'histoire de Liverpool, c'est qu'à Liverpool, on se dit, est-ce que le titre de 2014, donc rétrospectivement, pourrait pas être attribué à Liverpool, ce qui ferait que Steven Gerrard, qui rappelez-vous, et c'est le seul titre qui lui manque, c'est ce championnat d'Angleterre qu'il a jamais gagné. Il a fait de la fameuse glissade aussi. Et tout ça, et là tu pourrais dire voilà, pour Steven Gerrard, même je pense que lui il apprendrait la médaille même quelques années après et sur tapis vert, mais c'est pas grave. Mais et donc Mourinho effectivement dans la même veine est allé aussi dire cette phrase mythique en disant 2018, alors quand on a fini deuxième derrière City, on pourrait pas le récupérer celui-là pour Manchester United. Mais c'est vrai que ça a fait l'effet d'une bombe atomique, parce que même si on savait qu'il y avait cette investigation, on savait qu'il risquait peut-être une grosse amende notamment, jamais on aurait pu penser qu'ils allaient être sanctionnés aussi aussi fortement. Donc deux années sans Ligue des Champions, même s'ils vont faire appel devant le TAS, bien sûr, et ça pourrait donc changer pas mal de choses.
Ouais, c'est surtout, la fin de l'histoire qui va être intéressante.
Bah, oui, attention,
le TAS peut faire exploser le fair play financier.
Carrément. De toute façon, c'est le truc qui peut en être depuis le début. Hein.
Oui, mais le TAS aussi peut révéler, peut rendre officiel tous les comptes, et la Première Ligue peut s'en saisir de son côté aussi en disant attendez, nous aussi on va regarder, parce que si vous avez trafiqué les comptes pour le fair play financier, donc pour l'UEFA, vous avez aussi trafiqué vos comptes pour nous, la Première Ligue, un peu comme la DNCG française, même si en Angleterre c'est pas aussi strict que la DNCG française, mais ils ont un organisme assez similaire, en disant attendez, parce que si vous avez triché sur ces quatre années là aussi en trafiquant vos comptes, ce qui vous a permis de dépenser plus d'argent sur le marché des transferts, en payant vos joueurs plus cher
avec des sociétés
c'est illégal avec des sociétés écrans, avec le
craché énormément d'argent derrière. Prêt et que s'il faille sanctionner, on accepte la sanction. Hein.
Comme ça s'est passé en Italie, hein.
L'Inter a récupéré des titres, hein, c'est sur la Juve. Hein. Mais là, c'était corruption. Là.
C'était plus compliqué, mais oui, voilà.
Mais là, c'est
je parle de l'Italie parce que si on considère qu'il y a des irrégularités, on peut revenir en arrière et enlever des titres.
Mais quoi, la corruption, l'Italie, c'est comme Marseille en France. C'est-à-dire quand c'est de la corruption. Là, c'est clair. Les histoires de fric, c'est plus complexe quand même.
Ah bah, excuse-moi.
Les bilans comptables sont trafiqués. Voilà, voilà.
Ah bah, bien sûr.
Ça ressemble à du dopage financier. Si le club est sanctionné, le club doit être sanctionné. Et quand le PSG a été près d'une sanction, ils ont fait en sorte d'être dans les clous. Et ils ont d'abord eu une sanction à un moment.
Exactement.
Le PSG a été sanctionné. On l'oublie souvent, mais il y a quand même eu sanction. Chelsea a été sanctionné. Il y a pas mal de clubs qui, au final, on croit que le fair play financier, c'est un peu abstrait. Mais il y a beaucoup de clubs qui ont, mine de rien, été sanctionnés. Là, c'est plus tape à l'œil parce que la sanction est énorme. Oui. Si elle vient à être confirmée deux ans sans
compétition européenne. Parce qu'elle est la mesure de la gravité.
C'est la survie du club, hein, tout simplement.
Oui, mais si il faut, que ce soit City ou un autre club, il faut que ça intervienne. Le fair play financier, j'espère qu'il ne sautera pas devant la justice comme beaucoup le prévoient.
Attention pour le Breitner, ex-expert comptable chez Volkswagen.
j'ai une question pour tout le monde et j'aimerais juste qu'il réponde par un oui ou pour un non. Parce que cette affaire, pour moi, en dehors du fait que c'est Manchester City et comme l'a dit très justement Daniel, beaucoup de petits clubs européens ont été sanctionnés aussi, on n'en parle jamais d'ailleurs, hein, c'est aussi dangereux pour eux. Est-ce que vous pensez, si l'UEFA gagne, qu'on va revenir dans une logique de régulation du football plus poussée? Parce que moi, je ne crois pas que Manchester City, idéologiquement, par rapport aux tendances qu'on voit dans l'évolution du monde, tout simplement, et le football est un fabuleux exemple du néolibéralisme, de mon point de vue, on puisse avoir des personnes qui disent « Ah, attention, halte, on met les freins, et on revient dans une logique de régulation ».
Ta question n'a pas de sens, mon cher Polo.
Pourquoi ?
Parce que la sanction à City prouve que tu as tort. Parce que oui, il y a une régulation, elle est là.
Je veux dire, ça peut faire tout exploser le truc derrière.
Si la sanction est confirmée, ça veut dire que ce n'est pas le libéralisme sauvage, mais qu'il y a une vraie régulation.
Exactement.
Et c'est ce que j'attendais comme réponse. Mais moi, je pars dans une logique.
Question. Non, mais toi, ce que tu voudrais pas, c'est que le TAS déglingue la sanction.
Moi, je sais pas.
Parce que là,
jurisprudence. Non, mais là, il y a déjà une régulation.
Milan AC. Excusez-moi. Le Milan AC a été interdit de Coupe d'Europe.
Mais bien sûr.
Et le Milan AC est devant le TAS. Qu'a fait le TAS? Il a donné raison à l'UEFA.
Moi, je te dis que City, c'est pas du tout sûr qu'il gagne devant
le TAS. C'est pas ce que je posais comme question. C'est que moi,
la régulation, elle existe aujourd'hui.
Oui, mais
dans le fameux principe, tu ne dépenses pas plus que tu ne gagnes. Les comptes sont contrôlés.
Ça ne veut pas dire grand-chose, au passage.
Ça veut quand même un petit peu dire. Les comptes du PSG, ils les ont regardés de près quand même. Ils ont rétrogradé au moins 3-4 contrats qui étaient surévalués. Non, il y a quand même eu des choses.
Il n'y a pas de régulation puisque tu ne régules pas les marchés de chaque côté. Chacun a son propre marché. Les Anglais, si la Sky a envie de donner 10 milliards pour les droits télé,
ça n'a rien à voir.
Mais je veux dire, ils peuvent décider qu'ils surpayent un championnat pour pouvoir le rendre puissant.
Ça, d'accord. Voilà. Ça, d'accord. Donc, tu auras.
C'est une régulation.
Oui, mais.
Oligarque.
Au niveau européen, il y a une régulation.
Les plus jeunes d'arriver.
Non, mais c'est pour ça que la seule régulation qui pourrait intervenir, c'est dans le cadre d'une ligue fermée. Sur façon NBA.
Oui. Là,
tu l'aurais clairement.
Je ne cherchais pas à avoir raison. Je veux dire, moi, c'est la tendance que je regarde dans les clubs, hein, ou si on pouvait parler des agents aussi, qui aujourd'hui, dans beaucoup de clubs européens, c'est eux qui font la loi et plus les clubs eux-mêmes, qui s'en posent pour moi quand même certaines questions. Et je me disais que quand même, cette sanction, si elle était confirmée, et si, est-ce que ça serait une forme de encore une fois,
je pense qu'elle peut faire, elle peut foutre les jetons à beaucoup de clubs derrière.
Exactement.
De clubs, voilà, juste, bien sûr, parce que le problème de Manchester City, le problème de Manchester City, pardon, je dis bien, c'est qu'ils se sont crus au-dessus des lois depuis le départ. Donc si on se rappelle, l'UEFA a fait d'abord une enquête, ensuite le Football Leaks a tout fait exploser puisqu'ils ont donc révélé des emails où City dans les emails. T'as quand même lu des trucs assez incroyables où les avocats de Manchester City disaient à ceux de l'UEFA, mais nous, en gros, on en a rien à foutre de votre fair play financier. Ce qu'on préférait faire, c'est dépenser 30 millions d'euros pour employer les 50 meilleurs avocats et pour vous mettre un procès au cul, vous, à l'UEFA. Donc ça veut dire qu'ils sont allés très très loin dans le manque de respect envers l'UEFA pendant cette, et surtout ils ont refusé quand l'UEFA leur a demandé en fait on va éplucher vos comptes, si vous pouvez nous les renvoyer. 2012 à 2016, ils ont dit non, ça nous intéresse pas, donc démerdez-vous tranquille.
Est-ce qu'en Angleterre, Julien, il y a une sorte de solidarité autour de City, ou alors le club se fait totalement lâcher par les autres, par la Première Ligue, qu'est-ce qu'on dit?
Alors non. Alors ce qui a énormément de mal à passer en Angleterre, c'est la tricherie, c'est la malhonnêteté en fait de Manchester City, parce que
oui,
Manchester City, personne les a forcés à tricher. Non, mais c'est vrai. Mais les Anglais, ils ont plein de défauts, hein, notamment dès qu'il s'agit d'argent, et dès qu'ils peuvent faire le plus d'oseille possible, et ils vont pas se gêner. Ah, mais en revanche, trafiquer les comptes,
c'est pas un mal, ça.
Oui, non, c'est pas mal, mais c'est pour te dire à quel point parfois ils peuvent être aussi brutaux. Voilà, c'est autre chose.
Le tout, c'est d'être dans la légalité, c'est pas pareil.
Exactement. Et là, le fait qu'ils aient triché de cette façon-là, en ayant trafiqué leur compte comme ça pendant autant d'années, en ayant rayonné de l'UEFA, clairement, puisqu'ils étaient carrément au-dessus, ils se croyaient au-dessus de tout le monde et au-dessus des lois, et ils disaient limite à l'UEFA, mais jamais vous allez nous attraper, c'est impossible, et vous ne la ferez jamais à nous. Et les Anglais, c'est avec ça qu'ils ont beaucoup de mal, en disant, et c'est pour ça que maintenant beaucoup de gens ici voudraient que la Première Ligue se saisisse aussi de ce dossier-là de manière plus poussée, en disant, attendez, parce que s'ils ont triché de cette manière-là, et là on devient très très grave, et là t'es à la limite de tout le monde vous déteste parce que vous avez triché, vous avez trafiqué vos comptes de cette manière-là, et c'est différent du PSG, c'est différent de l'AC Milan et d'autres clubs anglais par le passé même.
Moi, je pense qu'il y a une chose aussi, parce que beaucoup de gens, notamment en Espagne, parlaient du PSG, etc. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que le PSG, lui, a fourni des documents, s'est très bien comporté, a toujours discuté avec l'UEFA. C'est une question d'attitude aussi.
Absolument.
Il faut reconnaître que
ce sont. Et a été sanctionné malgré tout, on l'oublie, sanctionné pas aussi gravement, mais a été sanctionné et a répondu aux exigences de l'UEFA.
Donc ceux qui se demandent, ah ouais, pourquoi
je veux bien qu'on fasse toujours une assimilation régionale. Parce que c'est le golf et qu'on dit City PSG, c'est la même chose. Ça me semble un petit peu primaire.
Ce qu'on appelle ici les clubs d'État, de nation étrangère. Voilà, on les appelle comme ça en Espagne.
J'aimerais qu'on conclue.
Mais là, concrètement, la différence, Fred, est très claire.
On conclut vite fait en écoutant rapidos Moussa Marega. Vous savez ce qui s'est passé hier à Porto. Il était dans Team Duga tout à l'heure, le joueur malien du FC Porto. Et écoutez, il revient sur ce qu'il a vécu à Guimarães hier soir.
Hier, vraiment, je me suis vraiment senti comme une merde. Parce que c'était vraiment une grosse humiliation pour moi. Ça m'a vraiment touché. Sur le coup, ils ne comprennent pas ma réaction. Parce qu'ils sont, je pense qu'ils sont choqués par rapport au fait que j'ai envie de quitter la pelouse. Donc après eux, leur première réaction, c'est déjà c'est une réaction d'amis. C'est d'essayer de me calmer. Parce qu'ils me connaissent très très bien. C'est qu'en tant que je suis à Porto. Donc ils savent que quand je suis énervé, malheureusement, c'est vrai que j'ai des comportements assez durs. Donc ils essaient de me calmer pour pas que je fasse une grosse faute, en fait. Mais à partir du moment où que je leur dis que c'est mort, avec les insultes que je reçois et les bruits de singe que je reçois, je vais pas continuer à jouer sur cette pelouse.
Voilà, donc il a expliqué qu'il avait été insulté dès l'échauffement et jusqu'au moment où il est sorti. On reviendra peut-être dans l'after plus en longueur sur cette
comment dire un mot, parce qu'on a commencé à en parler hier.
Voilà, malheureusement, on n'a pas 20 minutes pour le faire.
Non, donc, mais sur la façon 2, parce que j'ai commencé à dire hier, chacun, j'étais même demandé qu'est-ce que tu ferais à la place de l'entraîneur.
Moi, je laisserais faire le joueur selon ce qu'il a envie de faire lui.
Non, mais voilà, si le joueur te dit je veux me barrer, ça va être dur de l'attraper, lui dire vas-y quand même. Maintenant, si en amont, je peux en parler. Je lui dis, je pense que c'est une façon de donner raison aux crétins. Moi, je souhaite que tu leur fasses fermer leur gueule, mais sur le terrain. Et ça
comme
m'a
avait
ça
fait Eto'o.
Ça m'a fait penser ouais, à un très bon film que j'ai vu récemment, que je n'avais pas vu quand il était sorti, qui s'appelle Green Book, Les Routes du Sud, qui est un film que j'ai trouvé assez extraordinaire sur donc ce pianiste noir qui, plutôt que de refuser d'aller jouer dans les États ségrégationnistes du sud des États-Unis, y est allé, a affronté ce qui était un racisme institutionnel un peu plus important, il me semble quand même, que ces crétineries de stade. Et cette attitude-là, je trouve qu'elle est héroïque. Et je vous conseille d'ailleurs ce film qui est absolument magnifique. Et ça m'a fait penser à ça. Et j'aurais eu envie de dire à Marga, regarde le film, vois
oui, ce après, que ça... chacun réagit comme
absolument,
comme
mais peut, je respecte hein, ça, après, tu... ça. Non mais Fred, je suis d'accord avec ça. Ouais, je dis, ouais, chacun sa sensibilité, sa voilà, réaction. C'est... Je dis ce que moi, j'aurais envie de lui dire. C'est tout.
Et moi, je vais te dire, parce qu'on évoquait... Julien évoquait Eto'o. Ça a marqué énormément les esprits et ça a permis de nettoyer grandement le football espagnol. Ben il y a voilà, eu un avant et après la menace d'Eto'o de quitter le stade.
Et je prends 10 secondes la parole. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'a dit Daniel et Julien. On en a parlé avant l'émission sur ce cas-là où il me rappelait le cas Eto'o et ça, je suis à 200% là-dessus. Et par contre, ce qui m'exaspère beaucoup, ce sont la bien-pensance qui défend systématiquement le joueur. Déjà parce qu'il y a une caméra, donc on le voit. C'est-à-dire en Allemagne aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans les divisions inférieures du foot. Personne n'en parle parce qu'évidemment, on voit pas les choses.
Mais c'est pas moins grave.
C'est beaucoup, ouais, et c'est beaucoup plus grave. Non, si, c'est beaucoup plus grave ce qui se passe. Quand t'as un joueur qui commence à traîner avec des mouvements, et c'est pas fasciste, hein, d'extrême droite, qui sont notamment recherchés par la police et des choses comme ça, et qui sont encore sous contrat avec les joueurs, c'est autrement plus grave que moi que quelqu'un qui traite de singe un joueur quel qu'il soit.
Souvenez-vous pas Lodi Cagnot,
il n'y a pas forcément une hiérarchie dans la gravité sur le racisme.
Je suis pas d'accord avec
toi. Non. Il y a des gravités. Je reviens à ce film dont je parlais, Green Book. Excuse-moi, quand tu es face à des états ségrégationnistes, des choses quand même, c'est bien plus grave que des crétins qui font des bruits dans un stade.
Tu parles de réaction des gens.
Non, moi je te parle, c'est vraiment quelque chose. Là pour le coup, là c'est du combat, là on parle de choses qui sont c'est Martin Luther King. Là, tu insultes ces figures-là pour quatre crétins dans un stade.
Là où je rejoins Daniel, c'est que la différence, c'est que là, la star, c'est le black sur le terrain, et les singes, ce sont les mecs qui sont dans les tribunes.
Voilà.
C'est eux les singes, ils sont dans une cage, ils crient.
Voilà,
eux, ils vont retourner dans leur vie de merde.
Exactement.
Et lui, c'est une star. Voilà. Et lui, il vit sa passion. Donc en fait, tu peux pas comparer. C'est-à-dire que lui, ok, ça le fait chier, mais c'est lui qui a gagné.
Mon propos est de pas comparer.
Mais de la gravité. Il y a une échelle dans la
gravité. Tu ne peux pas niveler. Le singe, il est dans la tribune.
Tu refuses de combattre le vrai racisme. Quand je dis vrai racisme, c'est assez faux. Mais qui, à la rigueur, comme le dit très bien Julien, les singes, on sait très bien, ils sont dans les...
Oui, mais c'est aussi du racisme. Hein.
Mais
tu t'attaques à Tennis, à Schalke, avec ses déclarations. C'est facile de faire ça. C'est pas du coup, tu combats pas le racisme là-dedans.
Condamnons le racisme, quoi qu'il arrive, et parle devant le micro.
Mettons pas tout dans le même panier.
Merci les drôles de l'âme, merci Fred et Julien. Nous on regarde Polo parce que on veut voir
comment ça va. J'en peux plus.
Moi j'ai fait un quiz pour Polo, s'il est pas là, je suis sur la merde.
T'as fait un quiz pour Polo?
Ouais.
Et nous alors?
L'autisme. C'est que sur les chevaux à lunettes.
Ah, je cherchais mes lunettes. Allez, à tout de suite dans l'after avec la chronique de Julien et le reste de l'actu, bien sûr.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.